Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Les historiens ont-ils tout dit, tout écrit, posé toutes les questions sur Napoléon et l'Europe ? À l'image d'une Europe en construction perpétuelle, la figure de Napoléon semble elle aussi renaître de ses cendres pour chaque génération d'historiens. Visitons ensemble aujourd'hui, chers auditeurs, cette thématique qui évoque immanquablement la domination de Napoléon sur l'Europe et ses conséquences, en compagnie de l'académicien Jean Tullard, qui a consacré une bien grande partie de ses travaux à l'une des plus emblématiques figures de l'Europe, Napoléon. Signalons également, en ce moment, l'exposition que présente le Musée des Invalides « Napoléon et l'Europe » du 27 mars au 14 juillet 2013, où plus de 250 œuvres d'art, objets et documents en provenance de France et de pays européens voisins vous attendent. Ces documents, officiels et savants, populaires ou satiriques, racontent l'histoire de l'épopée napoléonienne à travers l'Europe. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour évoquer aujourd'hui la figure de Napoléon et l'Europe. Un thème un petit peu à la mode en ce moment, mais auquel vous avez déjà probablement consacré une entrée dans le dictionnaire Napoléon, sans cesse réédité, dont vous êtes l'auteur.
Alors effectivement, Napoléon et l'Europe, il y a eu déjà La Révolution et l'Europe d'Albert Sorel, qui est englobé dedans Napoléon. C'est un thème général, j'ai fait même une Europe de Napoléon, ou Le Grand Empire, qui était également un livre qui décrivait l'Europe soumise à Napoléon. Là, c'est l'Europe et Napoléon, ça ne signifie pas automatiquement qu'on n'y ait que les pays qui ont été soumis à Napoléon. Je dirais même que lorsqu'on voit l'exposition, on est un petit peu inquiet, quand on est à côté franchouillard, de voir tant de caricatures anglaises anti-napoléoniennes. Mais c'est le jeu, en quelque sorte, même si je considère que l'Angleterre n'a jamais fait partie de l'Europe et d'ailleurs s'obstine à ne pas vouloir en faire partie de façon entière.
Mais il y a eu des milliers de caricatures de Napoléon contre lui, justement, dans les autres pays.
Mais c'est surtout les caricatures anglaises, puisque Napoléon n'a pas dominé l'Angleterre. Alors, effectivement, Napoléon et l'Europe, c'est un thème important dans la mesure où, après Charlemagne, Napoléon est la figure emblématique d'une Europe unie, ou plus ou moins unie, sous une autorité unique. Napoléon a dominé la moitié de l'Europe directement, c'est le Grand Empire, l'Empire des 130, exactement des 134 départements, car il faut y inclure la Catalogne, qui à un moment donné a été transformée en département. Et puis, vous avez les souverains vassaux, vous avez donc le roi d'Espagne, Joseph, le roi de Naples, Murat, vous avez le fait que Napoléon est roi d'Italie avec Milan, qu'il est président de la Confédération du Rhin qui englobe toute l'Allemagne et qu'il est médiateur de la Confédération helvétique. Bref, c'est plus de la moitié de l'Europe qui est sous sa domination plus ou moins directe. Ne lui échappe que des puissances alliées comme la Russie à Tilsit, comme également l'Autriche à partir du moment où il épouse Marie-Louise et où il devient donc le gendre de l'empereur d'Autriche, et lui échappent les îles, c'est-à-dire l'Angleterre, la Sardaigne et la Sicile. Donc il a dominé l'ensemble de l'Europe.
Est-ce que ce serait un anachronisme de penser que Napoléon avait une vision européenne ? Ou une vision de l'Europe, certes, mais une vision européenne ?
Il aura cette vision, mais plus tard. C'est-à-dire à Sainte-Hélène, quand vous lisez le mémorial de Sainte-Hélène, vous êtes frappé par les idées que développe Napoléon concernant l'unité de l'Europe, l'agglomération des pays qui ont été soumis à lui. Et il y a même, à un moment donné, il dit « Tiens, j'avais songé une monnaie unique ». Car je vous rappelle qu'il n'a pas créé l'euro dans son empire, alors que pourtant il y avait des problèmes monétaires, puisqu'il y avait des problèmes de change. Donc, c'est plus tard qu'il découvre tout à coup qu'il aurait pu faire l'Europe, une Europe unie sous son autorité et écartant les Anglais, car l'Angleterre n'était pas considérée au fond comme une puissance européenne. Elle était à part et elle a toujours empêché précisément l'unité européenne, et empêché qu'il y ait sur le continent une puissance qui domine.
Donc il avait, non pas pressenti une Europe en formation, mais c'est à regret qu'il avait... Vous pourriez développer un petit peu cette vision, découverte pour lui, ce recul sur
à Sainte-Hélène,
son action.
C'est dans le mémorial. Donc nous sommes forcés de faire confiance à Lascaz, qui rapporte des propos de Napoléon, mais nous n'avons pas l'original, nous n'avons pas l'enregistrement. C'est donc Lascaz qui le fait parler. Il le fait parler dans un contexte où l'Europe du Congrès de Vienne est secouée par les mouvements des nationalités. Et donc Napoléon dit « Oui, je voulais simplifier la carte de l'Allemagne, ce qui n'est pas entièrement faux. Je voulais simplifier la carte de l'Italie, ce qui n'est pas non plus faux. » Et je voulais amener tous ces peuples à s'unir ensemble. Mais il le dit à Sainte-Hélène dans un contexte qui fait que les propos, car il sait que Lascaz prend des notes, ces propos vont avoir un grand retentissement au moment de la publication du mémorial et faire de Napoléon, qui avait été le tyran de l'Europe, au fond, l'immense espoir d'une unité européenne dans des idées libérales et nationales.
C'est incroyable, ces rebonds de la figure napoléonienne quand même.
Le visage de Napoléon a changé constamment. La légende napoléonienne dorée et la légende noire se sont combattues comme, au fond, la révolution et la contre-révolution. Et tantôt, c'est l'une qui l'emporte, tantôt l'autre, selon les circonstances.
Alors, comment les Européens voient-ils Napoléon ?
Alors, c'est l'intérêt de cette exposition qui heurte un peu le chauvinisme du franchouillard, mais qui essaie de montrer comment l'Europe a ressenti à l'époque la domination napoléonienne et comment aujourd'hui elle la voit. Comment l'a-t-elle ressenti à l'époque ? Eh bien, je crois que Napoléon a commis une erreur que je serais tenté de lui reprocher. Napoléon, c'est l'homme qui manie avec une dextérité étonnante le référendum. Regardez, il a fait 4 référendums qualifiés de plébiscites. Lorsqu'il annexe l'Oldenbourg, lorsqu'il annexe les villes de la Hanse, lorsqu'il annexe une partie de l'Italie, il aurait dû faire un référendum. S'il avait fait ce référendum, qu'il aurait gagné, évidemment, il avait une légitimité qu'il n'a pas, faute d'avoir fait ce référendum, et qui va permettre au vainqueur de Napoléon à Vienne, par exemple, de rétablir en Italie les anciens ducs, princes et autres qui avaient été dépossédés par Napoléon. Donc, de ce point de vue, la faiblesse de Napoléon, c'est de n'avoir jamais justifié. Et donc, les habitants qui ont souffert de sa domination à cause du blocus continental, c'est-à-dire des privations, puisqu'il n'y a plus de commerce avec l'Angleterre, qui ont souffert de ces demandes de soldats, ont progressivement dénoncer l'ogre, le tyran, celui qui dominait l'Europe. D'un autre côté, aujourd'hui, les Européens qui jugent Napoléon et sa domination admettent qu'il a apporté énormément à l'Europe parce que non seulement il a simplifié la carte de l'Italie ou de l'Allemagne, mais il a introduit les idées libérales. Le code Napoléon, et le code Napoléon, c'est ce qui transforme littéralement l'Europe. Alors,
une Europe du droit.
Une Europe du droit.
C'est un héritage que...
Et qui a détruit la féodalité. Mais le premier à le reconnaître, c'est Karl Marx, qui dit que Napoléon a détruit la féodalité en Allemagne. Et précisément, lorsqu'il intervient en Espagne, c'est pour établir son frère sur le trône, mais il a de grands principes. À peine arrivé à Madrid, il abolit l'Inquisition, dans une Espagne encore restée tout à fait au XVIe siècle. Il abolit la féodalité, il abolit les couvents, il introduit les réformes. Au fond, ce que les États-Unis ont cru faire en Afghanistan, il apporte la démocratie. Seulement, là, les habitants n'en veulent pas.
Est-ce que les Européens peuvent se réclamer tous aujourd'hui de la figure napoléonienne ?
tous, non, mais beaucoup. Et même, d'abord, ceux qui peuvent s'en réclamer, ce sont les Italiens, les Allemands, dans une certaine mesure les Suisses et les Hollandais, mais surtout les Allemands et les Italiens. Ceux aussi qui peuvent quand même l'évoquer avec sympathie, et d'ailleurs c'est le cas, sont même ceux qui ont peut-être le plus de sympathie pour Napoléon, ce sont les Russes. Car les Russes, d'abord, sont flattés d'avoir vaincu Napoléon, et surtout, ça a été le ferment de la guerre patriotisme, la guerre patriotique, et qu'on va reprendre
pour la deuxième guerre
en 1942, Staline reprendra cette propagande montrant que les paysans avaient résisté à Napoléon et résistent à nouveau à Hitler. Donc les Russes ont une très grande sympathie pour la figure de Napoléon. On est souvent invité en Russie. Les Italiens sont aussi extrêmement intéressés, les Allemands sont passionnés, ceux alors qui ne le sont pas. J'ai écrit un Napoléon qui a été traduit pratiquement dans toutes les langues d'Europe. J'ai dû attendre au moins 20 ans avant qu'il ne soit traduit en espagnol. N'allez pas à Saragosse en parlant français.
Comment vous l'expliquez ? C'est pas les...
La guerre en Espagne a été une guerre atroce, épouvantable, beaucoup plus dure même qu'en Russie. Ah ben c'est la guérilla.
C'est la guérilla,
avec les atrocités.
Elle a été d'une terrible.
Les désastres de la guerre de Goya, ces planches, montrent véritablement ce qu'était la guerre. D'un côté comme de l'autre. Songez quand le général René tombe aux mains des insurgés, des guerriers roses, il est plongé vivant dans une cuve d'huile bouillante. Les jonques aussi entre deux planches, etc. Et de l'autre côté, les viols, les exécutions sommaires.
Bien. Alors, quelle trace Napoléon a-t-il laissé aujourd'hui en Europe ?
Alors, il a laissé d'abord, bien entendu, une trace juridique, le code Napoléon, qui n'a pas été appliqué partout, mais partout où il y a eu une administration française, soit parce que c'était dans les départements, soit parce que les souverains étaient frères de Napoléon, partout, Napoléon exigeait l'introduction du code. Ça, c'est sa force, il l'avait parfaitement compris. Il y a aussi les grands travaux. Si vous prenez une ville comme Rome, qui a été en très bref, puisque c'est à partir de 1809 seulement, vous voyez que le préfet de l'époque a fait des grands travaux. On a séché les marais, etc. Il y a partout une volonté de simplifier la carte administrative, qui était, parce que c'était des entrelacs de divisions féodales. Donc on simplifie administrativement, on n'établit plus de justice et plus d'idées nouvelles, et on fait de grands travaux. Les préfets de Napoléon entreprenaient des modifications. Alors comme ça a été quand même une domination très brève, ça fait même pas 15 ans. Donc, évidemment, il n'en reste essentiellement que le souvenir et des mots, comme par exemple, pour Jérôme, le mot « loustique », puisqu'il fut roi de Westphalie. Vous voyez, quand il n'y aurait que ce souvenir, c'est déjà pas mal.
À l'heure de la mondialisation, quelle vision ont les historiens d'un sujet comme celui-là, Napoléon et l'Europe ?
Alors, effectivement, l'Europe aujourd'hui fait sourire dans la mesure où nous apercevons que l'Europe actuelle, c'est un pygmée par rapport aux puissances émergentes, par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis. Et donc, il est évident que Napoléon pourrait faire pâle figure par rapport à des conquérants comme Jean Giscard, par exemple. Mais il n'en reste pas moins que, quelles que soient les dimensions des autres ensembles, quelles que soient les conquêtes qui ont été faites par d'autres grands conquérants, Tamerlan et compagnie, eh bien, il n'en reste pas moins que ce qui fascine encore, c'est le panache. C'est ce côté extraordinaire d'un conquérant qui se retrouve à un moment donné maître de l'Europe. Il couche aux Tuileries, il couche à Madrid, il couche à Potsdam, il couche à Schönbrunn, il couche au Kremlin. Et ensuite, il se retrouve dans une île perdue de l'Atlantique, dans une petite résidence secondaire dont certains de nos contemporains ne voudraient pas aujourd'hui, la trouveraient trop médiocre. Donc c'est ce destin, c'est Prométhée frappé et enchaîné sur son rocher. Et c'est ça qui fait rêver, même dans les pays émergents, car Napoléon est très connu, aussi bien au Brésil. D'ailleurs, il y a eu des conséquences, puisque l'indépendance du Brésil date, comme celle de l'Amérique latine, date de la guerre d'Espagne et de l'intervention française au Portugal.
Oui, c'est la poursuite de la Révolution française et avec cet héritage grâce à Napoléon, en fait. Jean Tullard, Napoléon et l'Europe, en dehors de l'exposition là, qui a lieu en ce moment à Paris au Musée des Invalides et qui durera jusqu'au 14 juillet 2013, comment vous résumeriez d'une formule, je ne sais pas, ou d'un film, qu'est-ce que ça peut évoquer à nos auditeurs pour se plonger dans ce sujet? Quel film ou quelle entrée?
Une formule, on a cru que l'Europe était faite sous Charlemagne. On a cru qu'elle était faite sous Mozart, c'était l'Europe des Lumières. On a cru qu'elle était faite sous la Révolution, c'était la République, les Républiques Sœurs, avec la Grande Sœur qui était la République Française. On a cru qu'elle était faite par Napoléon. On a cru qu'elle était faite par le Congrès de Vienne, les vainqueurs de Napoléon, qui la réorganisent. Elle s'écroule en 1848. Bref, l'Europe, c'est la tapisserie de Pénélope, elle est toujours à refaire.
Une dernière chose, est-ce que c'est envisageable une Europe, j'allais dire, sans Napoléon? On accole forcément Napoléon et l'Europe. Une Europe sans Napoléon, est-ce que c'est possible dans l'esprit de certains?
Si Napoléon n'avait pas existé, il y aurait quand même eu une Europe. Il y aurait eu une Europe qui aurait été plutôt ce qui s'amorçait en 1787-88, une Europe des Lumières, une Europe des savants, où les artistes se déplaçaient. Mozart, on ne savait plus s'il était autrichien, italien, français. C'était le cosmopolitisme qui l'emportait. Et cette Europe est
comme
morte.
Comme un Picasso au XXe siècle.
Et cette Europe est morte à Valmy, lorsque les volontaires français de Dumouriez, qui était lui-même franc-maçon, et en face, il avait le duc de Brunswick, lui-même artisan des Lumières, lorsque les soldats français ont crié « Vive la nation !» La nation, c'est le mot qui empêchera toujours l'Europe et qui obligera Pénélope à refaire sa tapisserie.
Merci Jean Tullard.